Première partie. Une question de biologie et non de physique. Chapitre 1. Surpoids et pauvreté, un paradoxe ? Supposez que vous siégez dans un jury de tribunal. Le prévenu est accusé d'un forfait abominable et le procureur affirme posséder des preuves l'incriminant de façon irréfutable. Il déclare que sur la foi de ces preuves indubitables, vous devez vous prononcer pour la condamnation, que ce criminel représente une menace pour la société et qu'en conséquence, il doit être mis derrière les barreaux. L'avocat de la défense affirme quant à lui, avec tout autant de véhémence, que les preuves sont loin d'être aussi évidentes, que le prévenu a un alibi, même si celui-ci n'est pas à toute épreuve, et qu'on a trouvé sur la scène du crime des empreintes digitales autres que les siennes. L'avocat insinue que la police pourrait avoir trafiqué les résultats des expertises médico-légales, l'ADN et les échantillons de cheveux. Il affirme que le cas est loin d'être aussi évident que le procureur vous l'avait donné à penser, et que si vous avez des doutes légitimes, comme cela devrait être le cas, vous devez voter l'acquittement, car si vous faites incarcérer un innocent, vous commettrez non seulement une injustice incommensurable à son endroit, mais laisserez de plus le véritable coupable libre de frapper de nouveau. Dans la salle des jurés, il va vous falloir départager les différentes déclarations avant de prendre une décision fondée uniquement sur les preuves dont vous disposez. Quelles qu'aient été vos opinions au début du procès, que vous ayez alors pensé que le prévenu avait l'air coupable ou, au contraire, ne semblait pas capable d'un acte aussi abject, n'a aucune importance. Seules les preuves comptent, ainsi que la force de conviction qu'elles exercent sur vous. Nous savons que, bien que notre système judiciaire soit conçu pour éviter ce genre de choses, il n'est pas rare que des innocents soient condamnés pour des actes qu'ils n'ont pas commis. Un thème récurrent parmi les nombreuses plaintes ayant trait au dysfonctionnement de la justice est que les personnes condamnées à tort constituent souvent les suspects les plus logiques. On les condamne donc avec le sentiment de faire le bon choix. On a aussi davantage tendance à ne pas tenir compte des preuves susceptibles de les disculper et à ignorer les points compliqués de l'affaire. Nous aimerions croire que la science, que les scientifiques, ne font pas ce type d'erreur. Pourtant, cela se produit en permanence, car l'erreur est humaine. Les méthodes scientifiques sont un garde-fou supposé contre l'adoption de convictions erronées, mais elles ne sont pas toujours respectées, et, même lorsqu'elles le sont, découvrir la vérité sur la nature et l'univers n'en devient pas pour autant chose aisée. Le bon sens pourrait constituer une aide efficace, mais, comme le souligne Voltaire dans son dictionnaire philosophique, le sens commun est fort rare, y compris parmi les scientifiques, et de plus, la science nous démontre fréquemment que le bon sens ne suffit pas toujours pour appréhender un problème. Par exemple, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, bien que les apparences semblent indiquer le contraire. Ce qui différencie la science et le droit de la religion est qu'ils ne se satisfont pas de simples croyances. Ils nous incitent, au contraire, à nous demander si les preuves fournies confirment réellement ce que l'on nous demande de croire, ou ce que nous croyons depuis notre enfance, et nous autorisent à vérifier si nous disposons de toutes les preuves disponibles, ou seulement de quelques preuves à charge. Et si les preuves en présence ne confirment pas nos croyances, ils nous encouragent à modifier ces dernières. Il est étonnamment facile de trouver des preuves réfutant la croyance selon laquelle nous prenons du poids parce que nous consommons davantage de calories que nous n'en dépensons, autrement dit parce que nous mangeons trop. Dans le domaine scientifique, le fait d'examiner les arguments avec scepticisme est généralement considéré comme une exigence fondamentale pour progresser. Dans les domaines de la nutrition et de la santé publique, c'est au contraire considéré par beaucoup comme contre-productif, car risquant de saper les efforts fournis pour promouvoir certains comportements dont les autorités pensent, à tort ou à raison, qu'ils sont bons pour nous. Mais ici, c'est notre santé et notre poids qui sont en jeu, et il est indispensable d'examiner les preuves disponibles et de voir où elles nous mènent. Imaginons donc que nous faisons partie d'un jury chargé de trancher si c'est ou non la suralimentation, c'est-à-dire le fait de consommer plus de calories que nous n'en dépensons, qui est responsable des « crimes » que constituent l'obésité et le surpoids. L'épidémie d'obésité est un bon point de départ. Depuis que des chercheurs américains des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont annoncé au milieu des années 1990 que l'on était en présence d'une véritable épidémie, les autorités accusent la suralimentation et le mode de vie sédentaire deux facteurs qu'elle considère comme étant des conséquences néfastes de la relative opulence des sociétés modernes. En 2003, Marion Nestle, nutritionniste à l'Université de New York, affirmait dans la revue Science que c'était l'augmentation de la prospérité qui, avec la complicité des industries de l'alimentation et des loisirs, était responsable de l'épidémie. Elle transforme les personnes disposant de suffisamment de moyens en consommateurs d'aliments à la fois très énergétiques et de valeur nutritive faible, bénéficiant de campagnes marketing très agressives, ainsi que de voitures, de téléviseurs et d'ordinateurs qui favorisent un mode de vie sédentaire. La prise de poids, c'est bon pour les affaires. Kelly Brownell, psychologue à l'université de Yale, créa le terme d'environnement toxique pour exprimer la même notion. De même que les habitants de Bhopal ou de Tchernobyl vivent dans des environnements toxiques, favorisant le développement de diverses maladies, dues respectivement à la présence de substances chimiques dans l'air et les nappes phréatiques et à une radioactivité importante, nous vivons, quant à nous, selon Brownell, dans un environnement toxique qui favorise la suralimentation et l'inactivité physique. Et l'obésité en serait la conséquence naturelle. Toujours selon Brownell, autrefois peu répandus, les cheeseburgers, les frites, les drive-in et les menus XXL, les sodas et les sucreries, les chips ou les biscuits d'apéritif font aujourd'hui partie de notre quotidien au même titre que les arbres, l'herbe et les nuages. De plus, rares sont les enfants à aller à l'école à pied ou à vélo. L'éducation physique est insuffisante. L'ordinateur, les jeux vidéo et la télévision font rester les enfants chez eux sans bouger et les parents renâclent à les laisser vagabonder et jouer librement au dehors. En d'autres termes, nous dit-il, si l'obésité explose, c'est la faute à trop d'argent, à trop d'aliments accessibles trop facilement, à trop d'incitations à être sédentaire ou à trop peu de nécessité d'être actif physiquement. L'Organisation mondiale de la santé fait appel à la même logique pour expliquer l'épidémie d'obésité qui sévit à l'échelle planétaire, accusant la hausse des revenus, l'urbanisation, l'évolution du travail vers une exigence physique moindre, qui entraîne une baisse de l'activité physique et des passe-temps plus passifs. La recherche sur l'obésité utilise un terme quasi scientifique pour décrire ces conditions. On parle désormais de l'environnement obésigène, dans lequel nous vivons, ce qui signifie un environnement ayant tendance à transformer des personnes minces en personnes en surpoids. Dans ce contexte, il est important de souligner qu'il a été maintes fois démontré que le surpoids est lié à la pauvreté et non à la prospérité. Cela vaut pour les femmes en général et pour les hommes dans leur majorité. Plus quelqu'un est pauvre, plus son surpoids est susceptible d'être important. La première enquête faisant état de ce lien date du début des années 1960 et porte sur des habitants du quartier de Manhattan, à New York. Elle montre qu'il y avait 6 fois plus de femmes et 2 fois plus d'hommes obèses parmi les pauvres que parmi les riches. Ce phénomène a été confirmé par la grande majorité des études menées depuis, tant sur des adultes que sur des enfants, et notamment par les études des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies qui révélèrent l'existence de l'épidémie d'obésité. Se pourrait-il que l'épidémie d'obésité soit une conséquence de la prospérité ? Plus nous sommes riches, plus nous prenons de poids, et qu'en même temps l'obésité soit liée à la pauvreté ? Plus nous sommes pauvres, plus nous risquons d'être en surpoids. Ce n'est pas impossible. Peut-être les pauvres ne subissent-ils pas de la part de leur père la même pression pour rester minces que les riches. Croyez-le ou non, ceci est l'une des explications qui ont été admises pour dénouer cet apparent paradoxe. Une autre des explications largement acceptées du lien qui existe entre l'obésité et la pauvreté est que les femmes en surpoids se marieraient avec des hommes issus de classes sociales inférieures à la leur, et se retrouveraient donc en masse au bas de l'échelle sociale, tandis que les femmes minces se marieraient au-dessus de leurs conditions. Une troisième interprétation est que les personnes défavorisées auraient moins de temps libre pour faire du sport, moins de ressources pour s'inscrire à un club de forme, et qu'elles habiteraient dans des zones sans parc et sans trottoir, ce qui empêcherait leurs enfants de marcher ou de s'adonner à des activités sportives. Ces allégations sont peut-être correctes en soi, mais elle demande un gros effort d'imagination pour expliquer la situation. Et plus on les examine de près, plus les contradictions deviennent évidentes. Lorsque l'on examine la littérature, ce que, dans le cas présent, les experts n'ont pas fait, on constate qu'elle mentionne de nombreuses populations ayant connu des taux d'obésité comparables à ceux que connaissent aujourd'hui les États-Unis, l'Europe et d'autres régions du globe, sans avoir joui pour autant d'une quelconque prospérité, et en n'ayant disposé d'aucun ou de peu des ingrédients caractérisant l'environnement toxique de Brownell. Ni cheeseburger, ni soda, ni chips, pas de drive-in, Pas d'ordinateur, ni de télévision, pas même un livre parfois, en dehors éventuellement de la Bible, et pas non plus de mères surprotectrices empêchant leurs enfants de sortir jouer à l'air libre. Parmi ces populations, les revenus n'augmentaient pas, on ne disposait pas de machines pour faciliter les tâches pénibles, et on n'évoluait pas non plus vers un travail moins physique ni vers des passe-temps plus passifs. Au contraire, certaines d'entre elles étaient dans une misère noire, dans une pauvreté que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. Selon les thèses accusant la suralimentation, ces populations auraient donc dû être particulièrement minces, voire maigres. Et pourtant, elles ne l'étaient pas. Vous rappelez-vous l'étonnement de Hildebrandt face au nombre d'enfants qui présentaient un fort surpoids en plein cœur de la Grande Dépression ? Il faut savoir que les observations de ce genre sont loin d'être aussi rares qu'on pourrait le penser. Prenons par exemple une tribu d'Amérindiens vivant en Arizona, les Pimas. À ce jour, c'est vraisemblablement cette tribu qui présente le plus fort taux d'obésité et de diabète de tous les États-Unis. Sa situation pitoyable est souvent évoquée comme exemple de ce qui se produit lorsqu'une culture traditionnelle se heurte à l'environnement toxique de l'Amérique moderne. On dit qu'autrefois, les Pimas étaient une société d'agriculteurs et de chasseurs où il fallait travailler dur, tandis qu'aujourd'hui, comme beaucoup de Nord-Américains, ils sont salariés dans des métiers sédentaires, prennent leur voiture pour aller au fast-food, mangent mal, regardent des shows télévisés et, comme beaucoup d'autres, grossissent et deviennent diabétiques. Sauf que chez les Pimas, la situation est particulièrement grave. Citons les instituts sanitaires dépendant du département de la santé et des services sociaux des États-Unis. Lorsqu'après la Seconde Guerre mondiale, les aliments typiquement nord-américains devinrent plus accessibles au sein de la réserve Pima de Hill River, le surpoids a augmenté. Je veux souligner que dans cette citation ce mot « augmenter » veut dire que les Pimas avaient un problème de poids bien avant la Seconde Guerre mondiale, et même avant la Première, une époque où leur environnement n'était pas particulièrement « toxique », ou, en tout cas, pas comme nous l'entendons aujourd'hui. Entre 1901 et 1905, deux anthropologues étudièrent les Pimas indépendamment l'un de l'autre, et tous deux firent le constat d'un fort surpoids, particulièrement chez les femmes. L'un d'eux était Frank Russell, jeune anthropologue de Harvard, dont le rapport, publié en 1908, allait faire école. Russell nota qu'un grand nombre de Pimas âgés présentaient un degré d'obésité contrastant vivement avec le cliché répandu de l'Indien, grand, mince et musclé. Le second, Alechard Leka, avait suivi des études de médecine et allait par la suite devenir conservateur d'anthropologie physique à la Smithsonian Institution, une institution de recherche scientifique créée aux États-Unis. Dans le cadre d'une série d'expéditions qu'il entreprit pour étudier la santé et le bien-être des tribus autochtones de la région, Hurleyka se rendit chez les Pimas en 1902 puis en 1905. Dans toutes les tribus, on trouve des individus particulièrement bien nourris, des deux sexes et de tous les âges, écrivit-il au sujet des Pimas et des Utes du Sud, tribus peu éloignées géographiquement. Mais ce n'est pratiquement que chez les Indiens vivant dans des réserves que l'on constate des cas de réelle obésité. Ce qui fait l'intérêt de cette observation, c'est qu'à cette époque précise, les Pimas, qui comptaient jusque-là parmi les tribus amérindiennes les plus fortunées, en devinrent l'une des plus pauvres. Quelle qu'ait été la cause de leur prise de poids, il ne pouvait donc s'agir de leur richesse ni de l'accroissement de leurs revenus. Et c'est même l'opposé qui semblait être le cas. Durant les années 1850, les Pimas avaient connu un énorme succès en leur qualité de fermiers et de chasseurs. Le gibier abondait dans la région, et la tribu était particulièrement habile à manier le piège et l'arc. Les Pimas se nourrissaient également de poissons et de palourdes qu'ils pêchaient dans la Gila River, une rivière traversant leur territoire. Par ailleurs, ils cultivaient du maïs, des haricots, du blé, des melons et des figues, dans des champs irrigués avec l'eau de cette même rivière, et élevaient des bovins et des poules. En 1846, lorsqu'un bataillon de l'armée américaine traversa le territoire Pima, le chirurgien du bataillon, un certain John Griffin, décrivit les Pima comme une population alerte et en bonne santé, et nota qu'ils disposaient également d'entrepôts pleins d'une très grande abondance de nourriture. À tel point qu'au commencement de la ruée vers l'or, 3 ans plus tard, le gouvernement des États-Unis demanda aux Pimas, qui acceptèrent, de fournir des vivres aux dizaines de milliers de personnes qui allaient traverser leurs terres en se rendant en Californie au cours de la décennie suivante. La ruée vers l'or en Californie mit fin à l'existence relativement paradisiaque des Pimas ainsi qu'à leur opulence. Un grand nombre d'Anglo-Américains et de Mexicains commencèrent à s'installer dans la région. les nouveaux venus, qui comptent parmi les spécimens de l'humanité les plus vils que la race blanche ait jamais produit, écrivit Russell, chassèrent tant et si bien que le gibier local fut près de disparaître, et détournèrent la Gila River pour irriguer leurs propres champs, aux dépens des pimas. Dans les années 1870, les pimas traversèrent alors ce qu'ils appelèrent les années de famine. Russell écrivit alors « Ce qui étonne, c'est que la famine, la détresse et l'éparpillement qui en résulta n'eurent pas raison de la tribu. » Lors de la venue de Russell et de Hardeka dans les premières années du XXe siècle, les pimas continuaient à cultiver ce qu'ils pouvaient mais dépendaient désormais des rations gouvernementales pour assurer leur subsistance au quotidien. Mais alors, comment expliquer leur surpoids? Après une longue période de famine, on est censé perdre du poids, non s'y maintenir, et en aucun cas en prendre davantage. Et même si l'on suppose que les rations gouvernementales étaient tout simplement trop copieuses et avaient réussi à mettre fin à la famine, cela n'explique pas encore pourquoi elles auraient fait grossir les pimas, mais pas la nourriture abondante dont ils disposaient avant la pénurie. Alors peut-être la réponse se trouve-t-elle dans le type d'aliments consommés et s'agit-il d'une question de qualité plutôt que de quantité? C'est ce que Russell suggérait lorsqu'il écrivit que certaines des denrées dont ils se nourrissent semblent être nettement productrices d'embonpoint. Hardeka, qui pensait également qu'au vu de la précarité de leurs conditions de vie, les pimas auraient dû être maigres, déclara, il semble que l'alimentation ne joue qu'un rôle indirect dans la survenue de l'obésité chez les Indiens. C'est pourquoi c'est à l'inactivité physique, ou tout du moins à une inactivité physique relative, qu'il attribua la cause de cette obésité. Les pimas étaient sans doute plus actifs que nous ne le sommes de nos jours, en raison de la charge de travail qu'impliquait l'agriculture pré-industrielle, mais, en comparaison à leur mode de vie passé, ils étaient devenus sédentaires. Ce que Hardeka qualifia de passage d'une vie active révolue à un mode de vie présent d'une grande indolence. Mais il ne sut expliquer pourquoi c'était généralement les femmes qui souffraient de surpoids, alors que dans les villages, c'était également à elles que revenaient pratiquement toutes les tâches exténuantes. Récolter les cultures, moudre les céréales, et même porter de lourds fardeaux lorsque les bêtes de somme manquaient. Hardeka fut par ailleurs troublé par le fait qu'une autre tribu locale, les Pueblos, qui avaient un mode de vie sédentaire depuis la nuit des temps, ne présentaient, eux, aucune surcharge pondérale. Le coupable était donc peut-être vraiment la nature des aliments absorbés? En effet, les pimas consommaient déjà tout ce qui entre dans l'alimentation de l'homme blanc, pour reprendre la formule de Hardeka. En 1900, l'alimentation des pimas présentait des caractéristiques très similaires à la nourriture que beaucoup d'entre nous consomment un siècle plus tard, mais en qualité, pas en quantité. En effet, après 1850, une demi-douzaine de comptoirs avaient ouvert dans la réserve Pima, et l'anthropologue Henry Duppins nota que les Pimas s'y ravitaillaient en sucre, café et boîtes de conserve pour remplacer les denrées traditionnelles auxquelles ils n'avaient plus accès depuis que les Blancs s'étaient installés sur leur territoire. De plus, une grande partie des rations que le gouvernement distribuait dans les réserves consistait en farine blanche ainsi qu'en des importantes quantités de sucre, en tout cas pour les Pimas d'il y a un siècle. Comme je le montrerai tout au long de ce livre audio, nous tenons là très vraisemblablement les éléments clés. Si les pimas étaient le seul exemple d'une population à la fois très pauvre et frappée d'obésité, nous pourrions les considérer comme une exception à la règle, comme un témoin isolé dont l'attestation en contredit de nombreuses autres. Mais comme je l'ai indiqué, il existe un grand nombre de ces populations témoignant de la présence de taux d'obésité élevés associés à une extrême pauvreté. Les pimas ne sont que les porte-drapeaux d'un long défilé de témoins que personne ne veut entendre et qui démontrent pourtant qu'il est possible de prendre du poids tout en travaillant dur et en étant pauvre, voire même sous-alimenté. Examinons maintenant ce que ces témoins ont à nous dire. Un quart de siècle après que Russell et Hardeka se furent rendus chez les pimas, deux chercheurs de l'Université de Chicago étudièrent une autre tribu d'Amérindiens, des Sioux, vivant dans la réserve de Crow Creek, en Dakota du Sud. Ces Sioux demeuraient dans des cabanes impropres à l'habitation et il n'était pas rare que 4 à 8 membres d'une même famille se partagent une seule pièce. Beaucoup de ces cabanes n'avaient ni plomberie ni eau courante. 40% des enfants vivaient dans des logements dépourvus de sanitaires. 15 familles, dont 32 enfants, se nourrissaient principalement de pain et de café. Saisir l'étendue de la pauvreté qui régnait parmi ces gens représente une gageure pour nos esprits contemporains. Et pourtant, le taux d'obésité de la population de cette réserve n'était pas très différent de ce que nous connaissons aujourd'hui en pleine épidémie. 40% des femmes adultes, plus d'un quart des hommes et 10% des enfants pouvaient être désignés comme étant en net surpoids, selon le rapport de l'Université de Chicago. On pourrait avancer que la cause de leur obésité était à chercher dans ce que Hardeka appelait la « grande indolence » de leur mode de vie dans la réserve. Mais les chercheurs notèrent un autre fait fort intéressant. Parmi ces Sioux, un cinquième des femmes adultes, et respectivement un quart des hommes et des enfants, étaient extrêmement minces. Dans la réserve, l'alimentation, qui, rappelons-le, provenait pour une grande part des rations distribuées par le gouvernement, était déficiente tant en termes de calories que de protéines et de vitamines et minéraux essentiels. Il était difficile d'ignorer l'impact de ces carences alimentaires. Bien que l'on n'ait pas fait de statistiques, même un observateur superficiel n'aurait pu s'empêcher de noter la forte prévalence de dents gâtées, de jambes arquées, d'inflammations oculaires et de cécité parmi ces familles. Cette association au sein d'une même population d'obésité et de malnutrition ou de sous-alimentation, apport calorique insuffisant, est un phénomène dont les autorités parlent aujourd'hui comme s'il était nouveau, alors qu'il ne l'est pas. Nous venons de présenter un exemple d'une telle association au sein d'une population qui vivait il y a 80 ans. C'est une observation importante et nous y reviendrons. Examinons à présent quelques exemples supplémentaires. 1951, Naples, Italie. Enzo Keys, nutritionniste de l'Université du Minnesota, à qui revient presque exclusivement la responsabilité de nous avoir convaincus que les matières grasses que nous mangeons et le cholestérol présent dans notre sang étaient des causes de maladies cardiovasculaires, se rend à Naples pour étudier l'alimentation et la santé de la population locale. « Sans aucun doute possible », écrit-il plus tard. « La règle, c'était un peu de viande maigre, une ou deux fois par semaine. Le beurre était pratiquement inconnu. On ne buvait jamais de lait, à part les bébés ou dans le café. Au travail, la colazione, le petit déjeuner, se composait souvent d'un demi-pain farci de laitue ou d'épinards cuits. On mangeait des pâtes tous les jours, généralement avec du pain sec, et un quart des calories provenaient de l'huile d'olive et du vin. Mais bien qu'il n'y ait pas d'indice de carence nutritionnelle, les femmes des classes populaires étaient en surpoids. Ce que Keys ne dit pas, c'est qu'à cette époque, la plupart des habitants de Naples, ainsi d'ailleurs que de toute l'Italie du Sud, étaient extrêmement pauvres. Les Napolitains avaient été littéralement écrasés par la Seconde Guerre mondiale, à tel point qu'au cours des premières années d'après-guerre, on assista au spectacle désolant de files entières de mères de famille, sans travail, qui se prostituaient aux soldats alliés afin de gagner un peu d'argent pour nourrir leurs enfants. Une enquête parlementaire menée après-guerre assimilait plus ou moins cette région au tiers-monde. Comme il y avait peu de viande, on en consommait peu, et les cas de malnutrition étaient fréquents. Ce n'est qu'à la fin des années 1950, longtemps après le passage de Keys, que les efforts de reconstruction commencèrent à générer de réels progrès. Il est intéressant de noter combien la description par Keys de l'alimentation des Napolitains ressemble à la diète méditerranéenne qui fait tant fureur actuellement, jusqu'à la consommation de vin rouge et de copieuses quantités d'huile d'olive, ainsi qu'au régime de grand-mère que Michael Pollan recommande dans « Nutrition, mensonges et propagande ». Ne mangez pas trop et privilégiez les plantes. Nul doute que les Napolitains de l'époque ne mangeaient pas trop. En 1951, une étude classa l'Italie et la Grèce bon dernier en Europe en matière d'apport énergétique par habitant, avec 2400 calories par jour, à comparer aux 3800 dont disposaient en moyenne les citoyens des États-Unis à cette époque. Et pourtant, les femmes des classes populaires étaient en surpoids. Pas les femmes riches, non. Celles qui devaient travailler dur pour gagner leur vie. 1954, où l'on retrouve les Pimas. Des chercheurs travaillant pour le Bureau des Affaires indiennes pèsent et mesurent les enfants Pimas. Ils rapportent qu'à l'âge de 11 ans, plus de la moitié d'entre eux, garçons et filles confondus, sont obèses. Description des conditions de vie dans la réserve de Hill River, pauvreté généralisée. 1959, Charleston, Caroline du Sud. Parmi les Afro-Américains, 18% des hommes et 30% des femmes sont obèses. Les revenus hebdomadaires d'un chef de famille ne dépassent pas 9 à 53 dollars, ce qui équivaut à une somme comprise entre 45 et 270 euros d'aujourd'hui. 1960, Durban, Afrique du Sud. Chez les Zoulous, 40% des femmes adultes sont obèses. Les femmes quadragénaires pèsent 80 kg en moyenne. Les femmes pèsent en moyenne presque 10 kg de plus que les hommes, tout en mesurant 10 cm de moins. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient mieux nourries. Les chercheurs rapportent en effet que l'adiposité excessive est souvent accompagnée de nombreux signes de malnutrition. 1961, Nauru, Pacifique Sud. Un médecin local décrit la situation sans ambage. Selon les standards européens, passé la puberté, tout le monde est obèse. 1961-1963, Trinidad, Caraïbes. Une équipe de nutritionnistes originaires des États-Unis rapporte que la malnutrition représente un sérieux problème médical sur l'île, et que c'est également le cas de l'obésité. Presque un tiers des femmes de plus de 25 ans sont obèses. L'apport énergétique moyen de ces femmes est estimé à moins de 2000 calories par jour, soit moins du minimum recommandé à cette époque par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, dans le cadre d'une alimentation saine. 1963, Chili. L'obésité est considérée comme le plus grand problème nutritionnel des adultes chiliens. 22% du personnel militaire et 32% des employés de bureau sont obèses. Parmi les ouvriers d'usine, 35% des hommes et 39% des femmes le sont également. Ces derniers présentent un cas particulièrement intéressant, leur métier impliquant très probablement un travail physique important. 1964-1965, Johannesburg, Afrique du Sud. Un groupe de chercheurs de l'Institut de la Recherche Médicale de l'Afrique du Sud étudie les retraités bantous de plus de 60 ans vivant en zone urbaine, soit les bantous âgés les plus indigents, autrement dit les membres les plus pauvres d'une population en soi déjà extrêmement pauvre. Parmi eux, les femmes pèsent en moyenne 75 kg. 30% d'entre elles souffrent de grave surpoids. On observe que 75 kg est également le poids moyen des blanches pauvres. 1965, Caroline du Nord. 29% des Cherokees adultes vivant dans la réserve de Kwala sont obèses. 1969, Ghana. 25% des femmes, 50% des femmes quadragénaires et 7% des hommes soignés dans les dispensaires d'Accra sont obèses. On peut légitimement conclure que l'obésité sévère est fréquente parmi les femmes âgées de 30 à 60 ans, écrit un professeur de l'école de médecine de l'Université du Ghana. Et il est bien connu que beaucoup de femmes travaillant sur les marchés des villes côtières de l'Afrique de l'Ouest sont en surpoids. 1970, Lagos, Nigeria. 5% des hommes sont obèses, ainsi que presque 30% des femmes. Parmi les femmes âgées de 55 à 65 ans, 40% sont très obèses. 1971, Rarotonga, Pacifique Sud. 40% des femmes adultes sont obèses, 25% extrêmement obèses. 1974, Kingston, Jamaïque. Ralph Richards, un médecin ayant étudié en Grande-Bretagne, qui dirige une clinique pour diabétiques à l'Université des Antilles, rapporte qu'à Kingston, 10% des hommes adultes et 2/3 des femmes sont obèses. 1974, de nouveau, le Chili. Dans un rapport d'étude mené sur 3300 ouvriers d'usine, dont la plupart s'acquittaient de tâches physiques éreintantes, un nutritionniste de l'Université catholique de Santiago expose que seuls 11% des hommes et 9% des femmes sont gravement sous-alimentés, tandis que parallèlement, seuls 14% des hommes et 15% des femmes sont en grave surpoids. Dans la population âgée de 45 ans et plus, presque 40% des hommes et 50% des femmes sont obèses. L'auteur mentionne également des études menées au Chili dans les années 1960 et note que c'est chez les ouvriers agricoles que l'on trouve la plus faible incidence d'obésité. Les employés de bureau présentent le plus fort taux d'obésité, mais celle-ci est également fréquente parmi les habitants des quartiers pauvres. 1978, Oklahoma. L'épidémiologiste Kelly West, principal spécialiste du diabète à cette époque, rapporte au sujet des tribus locales d'Amérindiens. On constate un fort surpoids chez les hommes, et ce surpoids est encore plus marqué chez les femmes. 1981-1983, Comté de Starr, Texas. Sur la frontière mexicaine, à un peu plus de 300 km au sud de San Antonio, William Muller et des collègues de l'Université du Texas pèsent et mesurent plus de 1100 résidents locaux d'origine mexicaine. 40% des trentenaires hommes sont obèses, bien qu'étant pour la plupart employés à des travaux agricoles et ou dans les champs pétrolifères dans la région. Plus de la moitié des cinquantenaires femmes sont obèses. Muller décrit plus tard les conditions de vie comme très simples. Il y avait un seul restaurant dans tout le comté de Starr, un restaurant mexicain, et sinon, il n'y avait rien. Mais comment expliquer le surpoids de ces populations pauvres? Ce qui rend si commode l'argument en faveur de la suralimentation et du déséquilibre entre l'apport et la dépense de calories, si commode d'ailleurs que c'en est suspect, c'est qu'il fournit dans tous les cas une réponse à cette question. Concernant les cas où la pauvreté et la malnutrition étaient si prégnantes que même les partisans les plus inconditionnels de la relation de cause à effet entre alimentation débridée et obésité ont du mal à imaginer que la population ait disposé de trop de nourriture. Les Pima dans les années 1900 et 1950, les Sioux dans les années 1920, les Trinitéens ou les habitants des quartiers pauvres dans le Chili des années 1960 et 70. On peut en effet toujours affirmer que les personnes concernées avaient sans doute un mode de vie sédentaire ou, en tout cas, trop sédentaire. Et dans les cas où les personnes recensées étaient indéniablement actives physiquement, c'est le cas des femmes Pima, des ouvriers d'usines chiliens ou des ouvriers agricoles et pétroliers mexico-américains. On peut alors argumenter qu'ils mangeaient trop. On peut raisonner de la même manière pour les cas individuels. D'ailleurs, certains ne s'en privent pas. Lorsqu'une personne en surpoids peut prouver qu'elle mange avec modération, c'est-à-dire, mettons, qu'elle ne mange pas plus que ses amis ou parents qui, eux, sont minces, les experts en concluent avec aplomb qu'elle doit être physiquement inactive. Lorsqu'au contraire, une personne en surpoids a notoirement une activité physique intense, les experts en déduisent avec la même assurance qu'elle mange trop. Si nous ne sommes pas des gloutons, nous sommes forcément coupables de paresse. Et si nous ne sommes pas paresseux, c'est que nous nous adonnons au péché de gourmandise. On peut argumenter de cette façon sans disposer d'aucune autre information pertinente concernant les populations ou les individus concernés. D'ailleurs, certains ne s'en privent pas. Et ceux qui argumentent ainsi font souvent preuve d'une volonté peu consistante d'aller réellement au fond des choses. Au début des années 1970, des nutritionnistes et des médecins passionnés de recherche discutèrent des forts taux d'obésité relevés parmi ces populations pauvres, pour certains sans avoir d'idées préconçues concernant les causes de ce phénomène. Ils faisaient montre de curiosité, comme cela devrait toujours être le cas, et hésitaient, comme cela devrait toujours être le cas, à affirmer qu'ils détenaient les réponses. À cette époque, l'obésité était encore considérée comme un problème de malnutrition plutôt que, comme aujourd'hui, de suralimentation. Une étude menée en 1971 en Tchécoslovaquie révéla par exemple que presque 10% des hommes et un tiers des femmes étaient obèses. Lorsque quelques années plus tard ces données furent rapportées dans les actes d'une conférence, les auteurs commencèrent leur rapport par ces mots. Un séjour, même bref, en Tchécoslovaquie révèle que l'obésité y est extrêmement fréquente et qu'elle y est probablement, comme c'est aussi le cas dans d'autres pays industrialisés, la forme la plus répandue de malnutrition. Concevoir l'obésité comme une forme de malnutrition est une manière d'aborder ce phénomène sans jugement moral, sans système de croyance, sans insinuation voilée, ni de gloutonnerie, ni de paresse. Cela dit simplement que quelque chose ne va pas dans un mode d'alimentation et devrait nous inciter à tenter de déterminer quoi. Voici ce qu'écrivait sans aucun parti pris Ralph Richards, le médecin et spécialiste du diabète anglo-jamaïcain, déjà cité. À propos du paradoxe apparent qu'impliquait la coexistence de l'obésité et de la pauvreté en 1974. Il est difficile d'expliquer le fort taux d'obésité dans une société qui, comme celle des Caraïbes, est réellement nécessiteuse, comparée aux standards dont jouissent les nations plus développées. Dans cette zone, la malnutrition et la sous-nutrition sont des problèmes fréquents au cours des deux premières années de l'existence. En Jamaïque, elles sont à l'origine de presque 25% des admissions dans les services pédiatriques. La sous-alimentation perdure jusqu'à l'âge d'environ 10 ou 12 ans. L'obésité fait son apparition dans la population féminine à partir de 25 ans et atteint de très fortes proportions à partir de 30 ans. Lorsque Richards parle de sous-alimentation, il parle d'un manque de nourriture. De leur naissance à l'âge de 10 ou 12 ans, les enfants des Caraïbes étaient exceptionnellement maigres et souffraient de retard de croissance parce qu'ils n'avaient pas assez à manger, et non pas seulement parce que leurs aliments étaient trop peu nourrissants. Puis l'obésité faisait son apparition, particulièrement dans la population féminine, et explosait lorsque ces femmes atteignaient la maturité. On retrouve l'association qui avait été observée chez les Sioux en 1928 et plus tard au Chili, la coexistence dans une même population, y compris souvent dans une même famille, de l'obésité avec la malnutrition et ou la sous-alimentation. Voici une analyse plus récente de la même observation, considérée cette fois du point de vue selon lequel c'est la suralimentation qui cause l'obésité. La citation suivante est issue d'un article paru en 2005 dans le New England Journal of Medicine et intitulé « Un paradoxe nutritionnel, sous-poids et obésité dans les pays en développement », écrit par Benjamin Caballero, responsable du Centre pour l'alimentation humaine à l'Université Johns Hopkins. Caballero évoque sa visite d'une clinique installée dans un bidonville de Sao Paulo, au Brésil. La salle d'attente, écrit-il, était remplie de mères entourées de jeunes enfants maigres et chétifs, montrant les signes caractéristiques d'une dénutrition chronique. Leur aspect aurait, hélas, eu peu de chances de surprendre quiconque connaît les quartiers urbains déshérités des pays en développement. Ce qui pouvait en revanche paraître surprenant, c'est que parmi les mères qui portaient leurs jeunes enfants sous-alimentés, beaucoup étaient elles-mêmes en surpoids. Caballero expose ensuite le problème que pose, selon lui, ce phénomène. La coexistence du sous et du surpoids pose un défi aux programmes de santé publique, les objectifs de ces programmes qui visent à réduire la dénutrition étant à l'évidence en conflit avec ceux de la prévention de l'obésité. Il entend par là que si nous voulons prévenir l'obésité, nous devons amener les personnes concernées à manger moins, mais si nous voulons prévenir la dénutrition, nous devons faire en sorte que les personnes concernées aient accès à davantage de nourriture. Mais alors, que faire ? Dans la citation de Caballero, en effet, à mon sens, ce n'est pas au programme de santé publique que la coexistence d'enfants maigres et chétifs montrant les signes caractéristiques d'une dénutrition chronique et de mères en surpoids pose un défi, comme le suggérait Caballero, mais bien à nos croyances, à notre modèle de pensée. Car si nous croyons que ces femmes étaient en surpoids parce qu'elles mangeaient trop, tout en sachant que les enfants sont maigres et chétifs parce qu'ils n'avaient pas assez à manger, il nous faut en déduire que les premières consommaient des calories superflues qu'elles auraient pu donner à leurs enfants pour leur permettre de se développer normalement. En d'autres termes, que les mères privaient volontairement leurs enfants afin de pouvoir, elles-mêmes, trop manger. Une supposition totalement contraire à tout ce que l'on sait du comportement maternel. Mais alors, que penser ? Devons-nous jeter aux oubliettes nos croyances en matière d'abnégation et de comportement maternel pour pouvoir conserver intactes nos croyances en matière d'obésité et de suralimentation ? Ou ne vaut-il pas mieux mettre en doute ces dernières et conserver les premières ? J'insiste, ce n'est pas au programme de santé publique que la coexistence de sous et de surpoids dans une même population, voire dans une même famille, pose un défi. C'est à nos croyances relatives à la cause de l'obésité et du surpoids. Et comme nous le verrons dans les chapitres suivants, ce n'est pas le seul phénomène à remettre ces croyances en cause.